cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Bienvenue pour cette nouvelle émission qui va être consacrée à la mort de la Troisième République. Hugo Cognier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'ENA et de l'ENS. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment pour les concours, un ouvrage de culture générale, mais aussi un ouvrage intitulé « Servir les assemblées ». Vous venez de publier « La mort de la Troisième République » 10 mai 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État, un ouvrage paru chez Perrin. Nous avons entamé avec vous une série de nos cours d'histoire. La semaine dernière, nous avons vu la défaite en quelques jours de la France. Nous verrons la semaine prochaine donc la liquidation de la Troisième République. Et cette semaine, eh bien, je souhaiterais un peu décrire cette révolution de palais qui a lieu à la fin du mois de mai et tout au long du mois de juin. À partir de quand commence-t-on à discuter de l'attitude à adopter en cas de défaite? Quel est le moment où on se représente la défaite et on se dit, au fond, il n'y a pas d'autre issue?
Un peu après la percée de Sedan, on pense d'abord que les Allemands vont se jeter sur Paris, vont obliquer vers le sud et prendre la capitale. Et le 16 mai, on a une scène de panique, hein, véritablement spectaculaire, qui se passe au ministère des Affaires étrangères, où Paul Reynaud, qui est à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, a ses bureaux. Les principaux caciques du régime se réunissent et l'affolement est perceptible. Déjà, on commence à brûler les archives du ministère, notamment les jetant par la fenêtre pour gagner du temps, pas avoir les descendre par l'escalier. On les brûle dans la cour, dans les jardins, et la fumée est visible jusque sur le pont des Invalides ou sur l'esplanade des Invalides. Donc, premier moment d'affolement le 16 mai. Ensuite, on se rend compte que les Allemands se dirigent non pas vers Paris mais vers la Manche. C'est ce coup de faux que nous avons évoqué la dernière fois. Donc un sursis, l'espoir finalement d'un redressement, l'espoir d'un miracle, mais les plus lucides se rendent bien compte que la messe est dite. Paul Reynaud essaie de réagir, il limoge le général Gablin et appelle à sa place le général Weygand. Autre vieille gloire de la Grande Guerre.
Il ne s'entend pas avec Pétain.
De 73 ans, il ne s'entend pas avec Pétain. L'armée est divisée en clans, et vous avez un clan Foch, puisque Weygand était le second de Foch, un clan Pétain, et il y avait un clan Joffre, dont Gamelin était l'héritier, puisque Gamelin était l'ancien collaborateur du maréchal Joffre. Trois clans militaires qui, en principe, se disputent. Donc il appelle Weygand, et il prend aussi cette décision... dans l'affolement, sans doute, pour se rassurer, pour faire ce que l'on appellerait aujourd'hui de la communication, c'est-à-dire galvaniser la population. C'est un souhait qui est très présent dans l'esprit de Paul Reynaud. Il rappelle le maréchal Pétain de Madrid, où il était ambassadeur, le fait entrer au gouvernement avec le poste honorifique de vice-président, en pensant que le vieil homme se contentera d'assister silencieux au Conseil des ministres, c'est ce qui se passe au début, d'honorer en quelque sorte de sa présence et de sa dignité le gouvernement, et le laissera lui agir. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer exactement comme ça. Donc on commence à discuter de l'armistice le 24 mai, lors d'un conseil de guerre à l'Élysée, qui ne réunit pas l'ensemble des ministres, mais un certain nombre de ministres et des responsables militaires. Le général Weygand, donc, qui a pris ses fonctions quelques jours plus tôt, qui a fait un petit voyage en Belgique, qui a jaugé de la situation et qui l'a jugé, d'ailleurs de façon objective, désespéré. Il estime que sera très difficile de tenir et que donc si l'on est battu dans les jours qui viennent, il va falloir penser à autre chose. Et très vite, donc, cette idée d'armistice. Alors, c'est semble-t-il Lebrun qui a prononcé le mot. Il a fait une gaffe. Alors, l'idée n'est pas encore majoritaire, mais enfin, elle est là, évidemment. Tout le monde l'a en tête. Tout le monde, à l'époque, c'est ce qui s'est passé en 1918, mais aussi en 1970, après la guerre franco-prussienne.
Alors, il y a quand même un obstacle, c'est que il y a cette alliance avec l'Angleterre qui constitue une barrière à la résignation et une telle issue. Ce qui est paradoxal, c'est que le 20 28 mars, un texte avait été signé afin d'assurer que l'Angleterre ne signerait rien avec l'Allemagne. Et quelques mois plus tard, c'est tout l'inverse.
Absolument. Sitôt nommé président du Conseil, Paul Reynaud était parti à Londres et il avait signé un traité avec l'Angleterre, donc, qui stipule qu'aucune des deux nations ne signera de paix séparée. Donc les deux nations sont censées rester solidaires jusqu'au bout. Dans l'esprit des dirigeants français, c'était pour lier l'Angleterre, en quelque sorte, pour empêcher l'Angleterre, qui est toujours protégée par la Manche et par la mer du Nord, pour l'empêcher de faire bande à part et de se désintéresser du continent, comme elle l'avait fait si souvent, malheureusement, au cours des années 30, pour empêcher le retour à une politique d'apaisement de la part des Anglais. Et dans le contexte tout à fait dramatique de la fin du mois de mai, du début du mois de juin 1940, l'argument l'engagement pèsent en réalité sur les Français. Puisqu'il y a quand même ce traité. Alors, certains essayent de dire qu'il n'a pas été ratifié par le Parlement, certains essayent de le vider de sa substance, mais il est bien là et il représente au moins un obstacle moral pour les dirigeants français, qui sont donc tentés par cette solution de l'armistice qui grossit peu à peu à partir du mois de mai.
Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on commence à chercher dans ce climat de défaite des responsables ?
Oui, et Paul Reynaud commet une erreur importante le 21 mai. Devant le Sénat, il rend compte donc des opérations militaires et donc le désastre devient public à ce moment-là, puisque Soissons, par exemple, a déjà été prise, les Allemands en progressent. Et il attaque les généraux et notamment un général, le général Corap, qui était en charge du secteur des Ardennes, partiellement en charge du secteur des Ardennes, en disant qu'il n'a pas fait le nécessaire, qu'il n'a pas fait sauter les ponts sur la Meuse, ce qui n'est pas vrai. En réalité, les choses ne sont pas passées comme ça. Mais on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, Reynaud agit ainsi. Sans doute cherche-t-il un bouc émissaire, en réalité, dans l'urgence. Mais les militaires, eux, le prennent comme une déclaration de guerre et se disent « on va nous faire porter le chapeau. C'est nous qui allons payer cette défaite. Et ça va se terminer quand même en 1970, éventuellement même par un procès, comme celui qui avait été intenté à l'époque au maréchal Bazaine. » Donc les militaires sont très conscients de ça et vont désormais, à partir du 21, tout faire. Ils vont se bloquer, se masser autour de Végan, faire bloc autour de Végan, et tout faire pour obliger les civils à prendre leur part de responsabilité, en tout cas ce qu'ils estiment être leur part de responsabilité.
Alors il y a deux hommes dont on vient de dire qu'ils étaient opposés, et pourtant ils font la même analyse de la situation, c'est précisément Pétain et Végan.
Absolument, donc c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. À la fin du mois de mai, se noue une intrigue, une conjuration, on peut même aller jusqu'à employer ce terme, autour du maréchal Pétain, s'agrègent des éléments différents qui n'étaient pas faits forcément pour s'entendre, puisque, on l'a dit, Pétain et Végan ne s'entendaient pas, ne s'aimaient pas. Mais ils vont se réconcilier, en quelque sorte, face à cette menace, qui pèse sur l'armée, d'être rendu responsable de la défaite. Vont s'agréger aussi un certain nombre d'hommes politiques de centre-gauche, dont la figure de proue est peut-être Camille Chautan, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est lui aussi vice-président du Conseil. Donc Reynaud est président du Conseil, on a deux vice-présidents, Pétain mais aussi Camille Chautan, qui est un homme politique très important, qui a été président du Conseil lui-même à plusieurs reprises, qui dirige le Parti Radical, donc la principale formation politique de l'époque, qui est un haut dignitaire franc-maçon. Donc a priori tout ce que Pétain et les militaires détestent, mais qui est aussi farouchement pacifiste. Et ce renfort de pacifistes va permettre de faire pencher la balance en faveur de Pétain et en faveur de l'armistice, en réalité.
Et Pétain travaille à l'idée de l'armistice, mais toujours dans un cadre privé. Il entretient une forme de défaitisme ?
Absolument, c'est quelqu'un qui est très pessimiste, qui juge la guerre perdue depuis qu'elle a été déclarée, depuis septembre 1939. Mais il a toujours été comme ça, pendant la Grande Guerre déjà. Il était réputé pour son pessimisme extrême. Et là, évidemment, les événements le servent. Donc, il ne cesse de répéter dans Paris que la guerre est perdue. Avant même qu'elle ne le soit complètement.
Est-ce que le problème du gouvernement, au fond, n'est pas son incroyable hétérogénéité? Un gouvernement avec de trop nombreux ministres, alors que Georges Mandel, par exemple, estimait qu'il fallait un gouvernement resserré. Et pour aller jusqu'au bout de ma réflexion, est-ce que cette absence, au fond, les Anglais appelleraient ça une task force, ne s'est pas constituée autour du maréchal Pétain?
Tout à fait. Lorsqu'il est devenu président du Conseil en mars, Paul Reynaud n'a été investi à la Chambre des députés qu'à une voix de majorité. Il a dû composer un gouvernement représentatif de différentes tendances et donc un gouvernement qui n'a pas d'homogénéité. On peut même dire qu'il y a deux gouvernements en un seul, puisqu'il y a deux factions très très fortes qui s'opposent, ceux qu'on appelle les durs et ceux qu'on appelle les mous. Les durs ou bellicistes, les mous ou défaitistes. Eux-mêmes se voient plutôt comme des pacifistes, évidemment, et les durs bellicistes pour leurs adversaires se voient plutôt comme patriotes, tout simplement. Reynaud est en principe du côté des durs, même la figure de proue de ce courant, hein, ce sont des gens qui voulaient résister à Hitler très fermement, depuis des années déjà, hein, tout cela, il y a une continuité par rapport à tout ce qui s'est passé dans les années 30. Parmi les durs, on a aussi Georges Mandel, vous l'avez cité, hein, qui devient ministre de l'Intérieur, qui est nommé ministre de l'Intérieur par Reynaud. Avant, il était aux colonies, pour essayer de reprendre les choses en main.
Et puis un certain De Gaulle.
Raoul Dautry, et puis De Gaulle, qui devient sous-secrétaire le 6 juin, sous-secrétaire d'État à la guerre, effectivement. Du côté des mous, on a Chotan et quelques autres, pour simplifier les choses. Et entre les deux, il y a un marais qui évolue, et des personnalités techniques, des ministres purement techniciens que Paul Reynaud promeut, qui sont des gens issus de son entourage proche, et alors deux en particulier, hein, Paul Baudouin et Boutillier, donc arrive sur le devant de la scène. Ce qui ne sait pas, c'est que Baudouin s'est abouché très vite avec Weygand. C'est lui d'ailleurs, semble-t-il, qui le réconcilie avec Pétain, qui réunit les deux hommes pour leur permettre de discuter. Il les a sans doute laissés discuter à huis clos, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais ils sont tombés d'accord, disons, sur la situation. C'est lui ensuite qui va voir Chotan, qui joue les intermédiaires en quelque sorte, et qui est le pivot de cette petite conjuration, cette intrigue ministérielle qu'on peut juger quand même très sévèrement, puisque nous vivons, la France vit des heures dramatiques, le pays s'effondre, l'armée est vaincue, et ces gens-là essayent de renverser le président du Conseil, essentiellement. Et s'occupe surtout de cela. Sachant que Baudouin donc, est un ancien protégé de Reynaud. Il était très proche, c'était un très proche collaborateur. Il se retourne contre lui, il le trahit. Baudouin, c'est un peu le traître de tragédie. Il fait un peu penser parfois au Narcisse de Britannicus, qui est le confident tantôt de Néron, tantôt de Britannicus. Et bien, Baudouin, c'est la même chose tantôt avec Weygand, tantôt avec Paul Reynaud. Et puis il est aussi proche de la comtesse de Porte, il l'entretient dans son travail de sape auprès de Reynaud.
Hélène de Porte qui était la compagne
comme on l'a vu la
semaine dernière. Alors on passe sur ces nombreux voyages, parce que s'il y a un véritable mouvement, le gouvernement va se replier en Touraine, puis ensuite à Bordeaux. C'est aussi l'époque où on débat ce mois de juin pour savoir si on doit se battre dans un réduit breton ou à partir de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui relevait de l'utopie? Qu'est-ce qui relevait du réalisme? Un Weygand n'est favorable, par exemple, ni à l'un ni à l'autre.
Effectivement, après l'évacuation de Dunkerque, donc début juin, les Allemands sont libres de reporter toutes leurs forces vers le sud. Le général Weygand établit un front sur la Somme et sur l'Aisne. Les Français d'ailleurs vont se battre très bien, beaucoup mieux en juin qu'au mois de mai. Ils commencent à apprendre les techniques ennemies et ils surprennent même leurs adversaires. Les Allemands sont surpris de la combativité française par rapport à ce qu'ils avaient pu voir dans le secteur des Ardennes. Mais ça suffit pas. Le front est enfoncé vers le 8 ou 9 juin. Les Allemands, cette fois, avancent vers Paris. Le gouvernement quitte Paris, donc dans un premier temps pour la Touraine, et ensuite pour Bordeaux, qui est traditionnellement la ville dans laquelle on se replie face aux offensives allemandes. Ça avait déjà été le cas en 1914, notamment. Pour Weygand, une fois le front de la Somme percé, il faut s'arrêter là, il faut demander l'armistice. Il est très clair là-dessus. Alors pourquoi ne pas continuer la lutte? Parce que ça ne servira à rien, selon lui, la métropole va être submergée. et surtout Végan a des arrière-pensées qui sont très, très claires, des arrière-pensées idéologiques. Lui, est, à la différence de Pétain, est un militaire très identifié à droite, et même à l'extrême droite anti-républicaine. Végan considère que le plus urgent, c'est de conserver des forces militaires suffisantes pour maintenir l'ordre en cas de subversion communiste. Il est très anticommuniste, peut-être même, pourrait-on dire, obsédé par la menace communiste, obsédé par le souvenir de la Commune. Donc, il croit revivre, en quelque sorte, 1970, c'est-à-dire gardons les troupes nécessaires pour écraser une éventuelle nouvelle Commune.
Il y a des bruits, d'ailleurs, qui courent sur...
Il y a des bruits qui courent, parce qu'on essaye d'expliquer les défaillances, les défaillances de l'armée par une activité subversive des communistes. Mais ce sont de pures rumeurs, rien ne vient les étayer.
Il y a des fake news, voilà.
Donc Végan veut conserver l'armée intacte le plus possible, en tout cas ce qu'il en reste pour réprimer à l'intérieur. Et Pétain, lui, a un projet déjà alors assez vague, mais un projet tout de même de régénérescence nationale. Son objectif, c'est d'arrêter les combats au plus vite pour pouvoir d'abord devenir le chef de l'État. C'est quelqu'un très ambitieux en réalité. À 84 ans, il n'a abdiqué aucune de ses ambitions. Il sent qu'il peut monter la dernière marche en quelque sorte vers le pouvoir suprême et donc profiter de la situation pour mettre en œuvre son programme, une sorte de vaste contre-révolution d'inspiration maurrassienne, disons, telle qu'on a, on l'a rêvé depuis quelques décennies. Donc le raisonnement n'est pas strictement militaire, il est influencé par la politique. Et les durs, à l'inverse, autour de Mandel, veulent, ou de Gaulle, veulent continuer la lutte. De Gaulle propose en effet la solution du réduit breton que vous avez évoqué, donc qui consisterait à masser des troupes en Bretagne, dans l'Armorique, et à tenir. Mais c'est une solution qui, en réalité, n'est pas fondée militairement. Voilà, pour le coup, elle est totalement utopique. Et la solution de De Gaulle a sans doute contribué à faire perdre du temps. Reynaud s'y est accroché pendant un certain temps, et puis après il a dû reconnaître, comme De Gaulle lui-même, que c'était pas possible, que ça ne pouvait pas marcher, qu'il n'y avait pas les défenses naturelles en Bretagne, on pouvait pas tenir. Et du coup ça l'a un peu décrédibilisé, et même affaibli vis-à-vis de ses propres ministres. Donc De Gaulle, en voulant continuer à se battre, a sans doute fait perdre du temps. Il aurait fallu tout de suite prendre un autre parti, qui était de quitter la métropole. Alors soit pour Londres, soit pour Alger, pour Alger, puisque l'Algérie est un département français, les trois départements français de l'Algérie. Mais ça suppose d'abandonner la métropole. Le choix n'est pas facile. Dans le même temps, l'exode se répand, l'exode qui est un phénomène étrange, psychologique, encore mal expliqué aujourd'hui, donc qui voit des populations belges et luxembourgeoises d'abord, puis françaises, une sorte d'effet boule de neige du nord vers le sud, se mettre sur les routes. Parce qu'elles ont gardé, dans le nord de la France, un très mauvais souvenir de l'occupation allemande de 1914-1918. Ces régions ont été occupées par l'Allemagne pendant la Grande Guerre. Parce que la propagande française et anglaise ont sans doute répercuté de façon maladroite un certain nombre d'atrocités commises par les Allemands, qui étaient bien réelles, et notamment le bombardement de Rotterdam, qui était purement gratuit par l'aviation allemande. Donc on craint les bombes des Allemands. On craint véritablement cette armée qui avance et on se met sur la route, alors pas forcément pour exiger l'armistice, hein, mais pour se mettre à l'abri, soi et sa famille, derrière un fleuve, donc derrière la Seine, puis derrière la Loire, et tout ça va se terminer au bord de la Garonne en quelque sorte. Mais l'exode contribue à saper les volontés au sein du gouvernement.
Alors je voudrais que nous reparlions de l'Angleterre, puisque avec l'Angleterre, nous avons une incompatibilité dans la vision de la guerre.
L'Angleterre, en tout cas Churchill, veut poursuivre la guerre. Et il a quand même au sein de son gouvernement un certain nombre de défaitistes, lui aussi. Mais il parvient, et à la différence de Reynaud, il parvient à les faire taire, en quelque sorte. Un certain nombre de défaitistes faisaient bloc autour de Lord Halifax, mais Churchill ne se laisse pas faire et parvient à imposer sa volonté.
Il est venu plusieurs fois en France par avion.
Dans le même temps, il essaye de réanimer les volontés françaises avec son extraordinaire éloquence. Donc il ne cesse de venir en France. Il y a plusieurs voyages, dans des conditions d'ailleurs périlleuses, puisque le ciel français est de moins en moins sûr, la lutte à feu progresse. Il vient, dès qu'on le lui demande, il vient. Ça fait aussi partie des accords du 28 mars, hein, de cette solidarité franco-anglaise. Et il essaye donc de convaincre les Français de rester le plus longtemps possible dans la guerre. C'est aussi l'intérêt de l'Angleterre. Toute semaine de combats supplémentaires sur le continent permet de préparer les îles britanniques à l'étape suivante, qui sera la bataille d'Angleterre, c'est-à-dire l'attaque allemande.
Alors ça peut paraître trivial, mais vous racontez une anecdote où il dort en France et on lui met une bouteille de cognac sur sa table de nuit et il la siffle pendant la nuit. C'est une chose qui marque les esprits, parce que au fond on se dit qu'on a affaire à un alcoolique et non pas un politicien visionnaire.
Exactement. Alors on boit beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais tout de même Churchill dépassait et de beaucoup les bornes prescrites. Et c'était un secret de Polichinelle. On savait qu'il était alcoolique, on savait aussi qu'il était fantasque, on se méfiait beaucoup de son tempérament, et certains hommes politiques français en tirent argument pour dire qu'on ne peut pas faire confiance à Churchill et que l'Angleterre ne tiendra pas. Weygand est persuadé que l'Angleterre aura le cou tordu comme un poulet. C'est la phrase en tout cas qu'on lui prête. Il a dit qu'il ne l'avait jamais prononcée, mais la phrase qu'on lui a prêtée, ça résumait sans doute l'état d'esprit de l'état-major français. Nous avons été vaincus par les Allemands, les Anglais, ces pauvres, ne pourront pas tenir, ils ne pourront pas faire mieux que nous.
Alors, c'est Camille Chautemps qui trouve une solution, parce que la France ne veut pas demander l'armistice. Plutôt que demander l'armistice, on demande les conditions de l'armistice.
Exactement, c'est une solution de transaction, un compromis, comme les radicaux aiment en dégager dans leur congrès, un compromis mi-chèvre, mi-chou, qui permet de rallier le marais. Les neutres au sein du Conseil, un certain nombre de ministres qui ne savent pas très bien quoi faire, qui ne savent pas très bien quel est leur intérêt aussi, qui n'ont pas envie de voter, parce qu'à aucun moment on vote très clairement sur l'armistice, donc n'ont pas envie de sortir du bois, et Chautemps arrive et propose cette solution qui paraît idéale, c'est-à-dire ne demandons pas l'armistice, mais demandons les conditions de l'armistice. Donc c'est une sorte de coup de sonde qui est adressé à l'Allemagne, sachant, ajoute Chautemps, que ça sera sans doute, comme les durs le prétendent, hein, ça sera sans doute des conditions inacceptables, et donc ça permettra de remobiliser la population, ça montrera qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, et là on pourra partir à Alger, effectivement, pour poursuivre la guerre de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est assez pervers comme raisonnement, puisque ça consiste à s'engager dans un engrenage. Reynaud voit très bien le problème, mais il est épuisé, il est victime encore une fois de ce travail de sape de sa compagne qui jour après jour lui dit qu'il faut arrêter là les frais, il faut faire appel au maréchal Pétain, etc. Et il finit par craquer le 16 juin à Bordeaux. Paul Reynaud démissionne et le président Lebrun lui demande qui pour vous succéder, parce qu'on n'a plus personne, on n'a pas la possibilité de convoquer le Parlement, bien sûr, on ne peut pas faire voter les députés. Et il dit bien le maréchal Pétain, puisque c'est ce que veut la majorité, appelons le maréchal Pétain. Et personne... là, c'est une grande erreur, évidemment, devant l'histoire.
Et personne ne voit la soif de pouvoir de Pétain ?
Personne ne la voit. Non, il y a sans doute une défaillance du renseignement dans cette période assez troublée. Même Mandel a sans doute sous-estimé le maréchal. On dit il est gâteux, il a 2 heures de lucidité par jour, il est sourd, il comprend plus rien. Au fond, c'est pas un mauvais homme, il fera jamais, il est trop patriote, vous voyez, pour commettre une indignité vis-à-vis de l'Allemagne. Donc le maréchal avance masqué. Et puis il n'y a personne d'autre. Qui d'autre, appelé le 16 juin? Alors Mandel, justement, mais il est juif. Et voilà, on sent bien un certain nombre de réticences dans le personnel politique. Certes, il y a eu Léon Blum, déjà président du Conseil, mais justement, ça n'a pas forcément donné de très bons résultats, en tout cas du point de vue, des hommes politiques en place à ce moment-là. Alors Chautemps, là, ça serait trop, et trop du côté des mous, donc on va appeler le maréchal Pétain, et personne ne s'y oppose. Les présidents des assemblées, dont on n'a pas encore parlé, hein, le président du Sénat, Jules Genet, et le président de la Chambre, Édouard Herriot, qui sont là aussi, qui ont des attitudes contrastées. Hein. Herriot, un peu comme Lebrun, d'ailleurs, au même moment, sombre dans une sorte de dépression. En réalité, il pleure en permanence. Le brun aussi, hein, les interlocuteurs qui le voient, il les prend dans ses bras, ils pleurent ensemble. Bon, vous voyez, l'ambiance quand même. Jeannet est plus ferme, il est beaucoup plus solide. C'est un républicain vieille roche, un ancien collaborateur de Clémenceau, un peu imbu de sa personne. Et plus solide, mais qui ne parvient pas entraîner l'adhésion finalement et à proposer autre chose que le maréchal Pétain.
Alors que va-t-il se passer dans ces derniers jours avant la mort de la Troisième République ? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Merci Hugo Cogné d'être revenu à notre micro. La mort de la Troisième République, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État, un ouvrage paru chez Perrin. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas écouté, à notre première émission qui s'intitule 1940 vers la débâcle. Et je vous donne surtout rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de ces cours d'histoire. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.